Oui, les racines chrétiennes, oui, tout à fait.
Ça, c'est dû à Clovis. Hein. Et donc, depuis, la société française est infusée de cet esprit de la chrétienté.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, dans le cadre de la journée spéciale que France Inter consacre à la loi de 1905, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, loi de 1905. Et c'est vrai que depuis ce matin, vous en entendez parler tout le temps sur l'antenne, c'est la folie. On va zoomer sur une notion qui revient beaucoup dans le débat public, portée le plus souvent par des représentants de la droite et de l'extrême droite, moins souvent par Philippe Poutou. Les racines chrétiennes de la France. Pour notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, qui a été écuyer acrobate au Puy du Fou pour financer ses études à Sciences Po, et qui restera pour son chorégraphe Bruno Retailleau, comme, je cite, le meilleur Charles Martel de l'histoire du parc, quand il fonçait sur les Sarrasins en hurlant « Vous n'aurez pas Poitiers !» On ne savait pas s'il jouait ou s'il était convaincu d'avoir hérité d'une sorte de mission divine, raconte en off notre désormais ex-ministre de l'Intérieur. Une chose est sûre donc pour Cyril, l'identité chrétienne de la France ne fait aucun doute. Là où ça se complique, niveau pluralisme dans cette émission, c'est que notre rédacteur en chef adjoint, Pierre Courade, enseignement Pierre de Courade, a également été élevé dans la rigueur de la foi catholique, qui plus est à Lourdes, où il retourne souvent se confesser pour expier toutes ces émissions wokistes qu'il supervise sur France Inter. Vous comprendrez que je suis inquiet cet après-midi pour le pluralisme de cette émission, où l'idée est néanmoins d'essayer d'examiner la réalité de cette affirmation selon laquelle la France et l'identité française seraient indissociables de ces fameuses racines chrétiennes. Alors, Cyril, prêt au moins à ouvrir le débat ?
Bonsoir !
Oh merde. Bon, visiblement, il n'est pas prêt.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Dans quelques instants, nous serons avec Christine Pedotti, qui était censée être là, mais qui s'est trompée d'heure, tout simplement. Ça arrive au meilleur, qui est journaliste, Christine, une des meilleures connaisseuses, vous le verrez, du catholicisme en France. Avec elle, on va donc essayer de comprendre si ces racines chrétiennes de la France sont indissociables de l'identité française et si certains politiques ont raison de s'en revendiquer dans le débat public sans cesse. Donc, on va parler de tout ça, mais je vais d'abord présenter mes fidèles acolytes. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Mathieu.
Ayez pitié pour son âme. Tous les vices répertoriés par la chrétienté, elle les a expérimentés. On a fait ce qu'on a pu pour la guérir. Une fois chez Blériot, on lui a même commandé de l'eau minérale, mais elle s'est exclamée... Ça brûle, puisque les sons ne suivent pas.
Oui, non, j'ai fait 3-4. Ah oui.
Eh oui, évidemment, souvenez-vous. En plus, quand vous avez découvert le prix, je ne sais pas si c'était l'eau elle-même ou le prix de cette eau qui vous a choqué, elle est vite repassée au Morgon. Manon, chaque après-midi,
c'est
vous nous livrez votre pièce jointe.
Une émission aujourd'hui, la plus vieille émission de France, encore diffusée. Tous les dimanches matins, elle ravit les chrétiens et ceux qui la regardent en gueule de bois, comme moi.
C'est sympa.
Eh oui.
Ne vous fiez pas à ce petit visage angélique avec lequel il aurait pu jouer le fils de Gérard Jugnot dans Les Choristes. Ce n'est pas pour rien si Cyril l'a surnommé le pire d'entre nous.
Si, Quentin, c'est pour rien.
Quentin, chaque matin, vous piégez des passants qui, pensant avoir affaire à un gentil scout d'Europe, s'approchent de vous sans crainte. Et là, vous ne les lâchez plus avec vos questions. Aujourd'hui donc, sur les racines chrétiennes de la France.
Et direction Caen, Mathieu, où j'ai glissé une tête puis un micro dans la foulée, en y passant le week-end dernier. Que pensent les canets, les canesses que j'ai arrêtés dans la rue de ces racines chrétiennes ? Réponse au pied d'un clocher, Mathieu, au pied d'un clocher, dans la prochaine demi-heure.
Au pied d'un clocher.
Au pied d'un clocher.
Pied d'un clocher.
Faites les choses bien, Quentin. Aux alentours de 16h30, il sera temps de rendre hommage, à travers le Zoom Zoom Test, à ces saints et ces saints qui ont réalisé des miracles, qui sont et qu'on fait de notables macaires de CT, Catherine de Sienne ou encore Angèle de Foligno, en régie Pierre Courade trépine d'excitation car il a les réponses à toutes ces questions. Vous, vu vos regards vides, vous ne les avez pas et c'est ça qui rendra le quiz amusant. Juste avant 17h, Jessé viendra disserter sur les racines chrétiennes de la France, un programme en soi. Après 17h, restez avec nous, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un génie dans Zoom Zoom Zen, je n'ai pas peur des mots. Le pianiste virtuose spécialiste de Chopin, Bruce Liu, sera notre invité. Acceptera-t-il de faire un duo piano-flûte avec Cyril ?
Moi, je suis prêt, en tout cas.
Les mélomanes... Bon, on l'entend. Ah. On l'entend. Vous êtes prêts ? Vous avez répété tout l'après-midi.
C'est Chopin ?
C'est tout à votre main.
C'est effectivement... Bien sûr que c'est Chopin.
Vous connaissez mal Chopin, j'ai l'impression.
On reconnaît très bien. On prend un blind test.
Et bonjour, Christine Pedotti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Christine. Vous êtes arrivée, vous êtes la directrice de la revue Témoignages chrétiens, cofondatrice de la conférence des baptisés francophones et du comité de la Jupe, une association qui s'appelle aujourd'hui Magdala. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit toujours de défendre la dignité des femmes dans l'Église catholique, et je peux vous assurer qu'il y a du boulot.
Il y a effectivement un peu de boulot. On va se pencher cet après-midi donc avec vous sur cette expression « les racines chrétiennes de la France » qu'on entend sur toutes les chaînes d'infos un peu partout. Christine, déjà, est-ce que l'expression est plus aujourd'hui un outil, un marqueur politique, qu'une réalité historique, ou bien c'est une réalité historique et on peut pas la nier ?
Ah bah c'est quand même une réalité sur l'histoire longue. L'histoire a été, la France a été très longuement chrétienne. Ce qui est amusant, c'est que ceux qui prétendent arracher, s'agripper aux racines chrétiennes, ils disent bien qu'au fond, il y a quelque chose qui est disparu, puisqu'il faut aller rechercher dans les temps anciens des marqueurs. Donc en fait, en même temps qu'ils se raccrochent à quelque chose, ils avouent aussi qu'il y a quelque chose qui a disparu, qui n'est plus une réalité. Donc c'est une réalité ancienne, c'est pas forcément la même réalité aujourd'hui, mais on va en parler.
Du côté de ceux qui pensent que les racines chrétiennes de la France sont fondamentales, il y a évidemment Cyril Lacarrière, dont l'arrière-arrière-arrière-grand-père Childeric Lacarrière s'était fait remarquer lors de la première croisade, quand, alors qu'une flèche ennemie lui avait perforé la bourse droite, avait continué de foncer vers Byzance en hurlant « Jésus te baise !»«
Jésus te baise !»
Une foi qui irrigue les Lacarrière depuis toujours. Cyril, remontons avec vous à l'origine du sujet, dites-nous, la loi 1905, puisque c'est vraiment la journée loi 1905 sur France Inter aujourd'hui, d'où ça sort ?
Imaginez, la France est en pleine Troisième République. Paris est en pleine Belle Époque, mais la politique, elle, est électrique. Le pays est coupé en deux, les républicains face aux catholiques conservateurs. Depuis un siècle, c'est le Concordat de 1801 qui fait la loi, un deal signé par Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII. Selon ce concordat, l'État reconnaît les cultes, il paye le salaire des prêtres, des pasteurs et des rabbins. En échange, l'État a droit de regard sur qui fait quoi, une sorte de partenariat public-privé avant l'heure. Mais depuis la naissance de l'école laïque de Jules Ferry entre l'Église et l'État, c'est devenu compliqué. L'État est vent debout contre ces lois qui chassent Dieu de l'école, et les républicains, eux, ont une obsession, couper les ponts. Ils rêvent d'une France qui ne dépend ni de Rome, ni de l'Évangile. C'est dans cette ambiance de guerre idéologique qu'apparaît le député socialiste Aristide Briand. Son idée, faire une loi qui ne soit ni une loi de persécution, ni une loi de faiblesse, et ça va malheureusement se retourner contre elle.
Et pourquoi ça, Cyril ?
Eh bien parce que chaque camp va y voir une trahison. Pour les anticléricaux purs et durs, cette loi de 1905 est un recul, et pour l'Église, c'est une spoliation. Le petit nom de la loi de 1905, c'est la loi concernant la séparation des Églises et de l'État, et ses deux premiers articles claquent comme une gifle contre les représentants de l'Église. L'article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, c'est la liberté totale. Et l'article 2 qui fait office de coup de massue, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. On coupe les vivres, plus un sou pour les églises. En revanche, les édifices construits avant 1905, eux, deviennent la propriété de l'État. C'est pour ça que nos cathédrales appartiennent à la République. Le pape Pie X dénonce violemment le texte, refuse d'abord son application, mais il n'aura pas le choix, tout pape qu'il est. Alors d'où ça sort la loi de 1905 ? Eh bien, d'un essai de compromis historique, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Christine Pedotti, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est avant tout perçue, on l'a dit, comme une loi anticatholique. Mais avec le recul de l'histoire, est-ce que c'était vraiment le cas ?
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on a deux mastodontes institutionnels. D'un côté, la République, d'autre côté, l'Église catholique. C'est deux puissances. Donc, en fait, on sépare les pouvoirs entre deux puissances. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne se souvient plus que c'était comme ça, parce que l'Église catholique n'est plus une puissance. Donc, en fait, c'est vrai que ça a été compliqué, parce que il y avait façon de se séparer. Bah, en fait, c'est comme un divorce. Hein. D'ailleurs, il a fallu séparer les biens, c'était pas simple.
Ça peut pas se passer bien, c'est comme un divorce.
Et puis, donc, la réconciliation a été longue. Hein. On dit que les tranchées de 1914 ont réconcilié les Français, les curés ont été dans les tranchées. Et c'était des gars bien, donc ça avait fait de la réconciliation. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses honnêtement, c'est une bénédiction, la loi de 1905. Parce que non seulement les cathédrales sont entretenues par l'État, mais chaque église est entretenue par les communes. Et quand on voit le nombre d'églises qu'il y a en France, je ne sais pas comment on pourrait entretenir toutes ces églises.
Donc, paradoxalement, ça a fait du bien
Oui, et puis peut-être que ça n'a pas fait du mal à l'église de devenir pauvre.
C'est vrai, c'est des amis en cause. Quentin.
Combien y avait-il de catholiques en France en 1905 et combien se revendiquent encore catholiques aujourd'hui ?
Alors, en 1905, j'ai envie de dire tout le monde.
Mais est-ce que tout le monde était vraiment...
C'est bien la question, c'est qu'au fond... On était catholique comme un poisson rouge vit dans l'eau. D'une certaine façon, on ne le savait pas. c'était évident, ne pas baptiser un enfant.
Ça ne se faisait pas.
Ça ne se faisait pas.
C'était l'hérite de la vie.
Sauf, évidemment, si on était d'une autre religion. Le judaïsme était présent en France hein, et reconnu, et les droits des juifs. La France, d'ailleurs, a été un pays très en avance pour reconnaître une citoyenneté absolue aux juifs. Donc la pensée laïque française, elle est intéressante aussi à cause de ça. Parce qu'effectivement, elle considère que les citoyens, ils sont tous égaux, qu'ils soient juifs, qu'ils soient catholiques, protestants, sans religion, indifférents, et aujourd'hui musulmans.
Mais pourquoi il a fallu attendre 1905, alors que la révolution de 1789 avait déjà laïcisé le pouvoir ?
Alors, c'est compliqué parce que, en fait, au moment de la révolution, les biens de l'Église ont été... l'Église a offert ses biens. Alors, bon, de façon plus ou moins consentante, hein, oui. Parce que, voilà, il y avait deux clergés. Il y avait un clergé riche et un clergé pauvre. Et en fait, le clergé pauvre, il était du côté de ce qu'on a appelé le tiers-état, c'est-à-dire les gens ordinaires. Donc, en fait, à ce moment-là, l'Église a donné ses biens à l'État. Et donc, en échange, l'État s'est mis à payer les curés, mais aussi payer les activités de bienfaisance que l'Église soutenait à l'époque, les hospices, les orphelinats, les soupes populaires, enfin, ce genre de choses. Et c'est pour... D'ailleurs, l'État, aujourd'hui, assume ses charges, puisque les Églises ne peuvent plus le faire. Mais par exemple, si on regarde notre voisin, l'Allemagne, en Allemagne, il n'y a pas de séparation de la même façon qu'en France, et les citoyens allemands, les citoyennes, payent un impôt s'ils sont catholiques ou protestants.
Ah oui, pour
mais, oui, alors les églises sont riches, mais en revanche, elles ont beaucoup d'obligations. Elles font les hôpitaux et tout ce genre de choses.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
En cette journée spéciale loi de 1905 sur France Inter, on a voulu se plonger sur un des termes qui revient le plus souvent dans le débat public actuel, les racines chrétiennes de la France. Christine Pedotti, journaliste spécialiste du catholicisme, est toujours avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, racines chrétiennes ? Est-ce que ça veut dire que la France a été fondée à partir du christianisme ? C'est indissociable à ce point-là ?
Ben, c'est vrai que l'histoire de la France... Et le christianisme sont des histoires qui sont liées profondément. D'ailleurs, au fond, il suffit d'ouvrir les yeux. Quand on se promène en France, il y a des églises, des calvaires, des cathédrales. Moi, j'habite à un petit village de Normandie. Quand je vais me promener, je vois cinq églises, j'entends trois Angélus. Donc, on voit bien cette emprise sur la terre, hein, ce quadrillage. Donc, et il est millénaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 ans qu'il y a cette présence. Alors, il y a la présence dans la terre, hein, ces clochers. Imaginez une France où on ne verrait plus de clochers. Tout d'un coup, elle serait raplapla, hein, on n'aurait plus ces repères dans les villes et dans les villages. Mais ça a aussi formaté notre culture. Et dans le christianisme, il y a probablement la fraternité, la solidarité, la justice, le partage, l'universalité. Tout ça, ça me semble être des valeurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que disaient ceux qui ont fait la loi de séparation. C'est qu'en fait, il y avait un peu les mêmes valeurs chez les curés, chez les instituteurs.
Oui, c'est ça. Et la laïcité, finalement, n'est pas incompatible du tout avec les notions de racines chrétiennes. Il y a cette valeur aussi oui, chez les chrétiens.
Tout à fait. Sauf, évidemment, quand on les instrumentalise.
Ça, on va en parler.
Qui est un autre sujet.
Est-ce qu'en 1905, on parlait déjà de racines chrétiennes ?
Alors non, pas tout à fait.
Ouais.
Parce qu'en fait... À l'époque, on était encore des poissons rouges qui vivaient dans l'eau.
Oui, c'est tellement évident qu'on...
Donc, en fait, la question ne se posait pas. C'est finalement quand, en fait, la pratique religieuse a commencé à s'effacer dans le catholicisme français, parce que non seulement elle est chrétienne, la France est même plutôt catholique, que tout d'un coup, on a été regarder les racines. Et il faut attendre, grosso modo, le début des années 80 du siècle dernier pour que l'expression surgisse. Mais en revanche, un grand penseur comme Maurras, par exemple, lui, il est déjà attaché à ce christianisme. Hein, Maurras, il est athée, c'est un athée dévot. Il croit à rien, mais en revanche, il pense que la structure de la pensée catholique et chrétienne, ça fait la France.
On parle de racines chrétiennes, mais l'expression est parfois complétée par racines judéo-chrétiennes. Pour quelle raison ?
Bah, de toute façon, parce que le christianisme, il a c'est même pas sa racine, c'est son terreau commun avec le judaïsme. Je veux dire, ce sont des religions qui sont quasiment jumelles, hein, puisque il y a certes un christianisme ancien qui précède le christianisme, mais le judaïsme qu'on connaît, il est jumeau avec le christianisme. Hein, ils naissent en même temps après une gigantesque catastrophe qui est la perte du temple de Jérusalem. Les Romains rasent Jérusalem au 1er siècle de notre ère et naissent finalement les chrétiens et puis les juifs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc en fait, c'est quelque chose d'absolument intimement lié, indissociable. Et d'ailleurs, il suffit de parler aujourd'hui, moi je fais ça souvent avec des femmes juives, hein, je fais des tables rondes avec des femmes rabbins et on s'aperçoit qu'on lit les textes de la même façon et qu'on a une immense culture commune.
Je voyais que Philippe le Bel, au XIIIe, au XIVe siècle, avait déjà montré des différends avec Rome de manière virulente. Napoléon est même allé jusqu'à séquestrer le pape Pie VII. La relation de la France et l'Église, elle a finalement toujours été assez houleuse, racine chrétienne, mais
La fille aînée de l'Église, c'était quand même une fille rebelle.
Insolente.
Tout à fait. Mais ça s'appelle le gallicanisme. Qui est en fait la particularité de la puissance de l'Église en France qui voulait rester autonome. Et en fait, ça a été très très puissant pendant des siècles et des siècles et ça donnait bien du tourment à Rome. Et finalement, on est devenu, alors le mot inverse de gallican, c'est ultramontain. C'est quand en fait on passe les Alpes, hein, la montagne, on passe de l'autre côté de la montagne et qu'on est davantage lié à Rome. Et paradoxalement, les autorités catholiques françaises, pour lutter contre la puissance de la République, sont devenues ultramontains, alors que leur tradition originelle, c'est d'être gallican, c'est-à-dire d'être attaché à une tradition française.
Tout est plus clair avec vous, Christine. Lui, quand le jour venu, il se présentera devant Saint-Pierre et que ce dernier lui posera la seule question qui vaille finalement. Comment t'es-tu comporté le jour où ton producteur a eu un accident de scooter? Il pourra répondre fièrement. Monsieur, j'ai immédiatement arrêté ce que j'étais en train de faire et j'ai foncé récupérer les clés du scoot de mon producteur pour l'emmener au garage BMW le plus proche. Bravo Quentin, bienvenue au paradis, dira Saint-Pierre, en jetant un voile pudique sur cette histoire de moineau qu'il avait écrasé un jour du côté de Châtelet. Bref, Quentin, vous êtes allé interroger les passants, c'est vrai.
J'ai ôté la vie.
Peut-être purgatoire, peut-être. Quentin, vous êtes allé interroger les passants sur cette notion de racine chrétienne de la France.
Je marche dans la ville qu'on surnomme la ville aux 100 clochers. C'est pas la seule en France, hein, Caen, une expression pour décrire son grand nombre d'édifices religieux. Ici, au pied de l'église Saint-Pierre, je rencontre cette dame. Elle s'appelle Marie, ancienne enseignante à la retraite. Je lui confie notre thème du jour.
Ouais, bah elle est là, la racine chrétienne. Je comprends, hein, racine chrétienne, c'est les origines religieuses, mais voilà, ça s'arrête là. Oui, ça prend de la place.
Ça vous gêne que la religion prenne
autant? Oui, quelle qu'elle soit, hein. Comme dirait l'autre, la religion est l'opium du peuple. Voilà, pour moi, ça a été inventé pour soumettre notre part de la population.
Je me décide à passer une tête dans ce morceau de patrimoine bâti, ça sent la bougie, l'orgue résonne et quelques personnes sont à l'intérieur. Je ressors en tombant sur lui, qui semble revenir du port. Il a un béret de marin, un long manteau aux épaulettes dorées. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Alban.
Vous êtes tout en marin?
J'ai pris ça de mon grand-père qui était marin et donc j'ai récupéré son manteau. C'est la raison pour laquelle je suis habillé comme ça.
Il découvre le thème qu'on décortique aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Oui, les racines chrétiennes, oui, tout à fait.
Ça, c'est dû à Clovis. Hein, et donc, depuis, la société française est infusée de cet esprit de la chrétienté. On n'a qu'à regarder les noms des stations de métro à Paris, hein, le nom de rue, le nom de village, de ville, etc. Et donc, le nombre de calvaires qu'il y a sur le bord de la route, le nombre d'églises qui fleurissent au sein de nos villes, de nos villages, qui font partie de l'identité de chaque Français. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Notre-Dame qui a brûlé. Effectivement, cette ferveur populaire qui s'est inscrite dans l'actualité montre bien que malgré tout, cette idée de chrétienté fait partie de l'identité.
Pour Alban, ça va plus loin. En 2025, la religion catholique propose aussi à la société d'évoluer dans un cadre.
Dieu et par son incarnation Jésus-Christ, ne nous demande rien de plus que de respecter la loi naturelle. Justement, c'est que pour faire un enfant, il faut un père et une mère, que c'est la base de la famille, que cette famille, c'est une petite société en soi, et qu'en la démultipliant, ça donne une société avec le contrat social de Rousseau, qui permettent justement de maintenir une sorte de cohésion culturelle au sein d'un même territoire et que la civilisation d'un pays, d'une nation, d'un continent se développe par rapport à ça.
Je remercie Alban. Je vous présente Vendry maintenant. Vendry, c'est un prénom normand, plutôt de la Haute-Normandie, mais depuis que François Hollande nous a unifiés, on va dire normand, il bosse dans un théâtre à Caen. C'est un auditeur d'Inter, tu penses. Voyons ce qu'il a à dire de...
Racine chrétienne. Waouh. Et oui, ça me gêne un peu. J'ai l'impression qu'il y a la laïcité, elle est un peu à plusieurs vitesses, quoi. Qu'on traite pas tout à fait toutes les religions de la même manière. Donc oui, ça me gêne.
Et d'ailleurs, il a un exemple qui s'est produit dans sa ville.
Il y a quelque temps, il y a eu un spectacle dans un théâtre à Caen qui a été pris pour cible par des intégristes. Je crois que c'était, mais je veux pas dire de bêtises, une réinterprétation du Stabat Mater de Pergolèse. Avec des éléments de queer, en fait. Et il y a eu des prières de rue, et ils ont défilé contre ce spectacle qui jugeait blasphématoire. Et donc, il y a eu vraiment ce défilé dans les rues de Caen.
De catholiques. Qui priaient dans la rue.
Et la police était présente pour un peu... Et je me dis que si on avait eu des musulmans qui priaient dans la rue, peut-être qu'ils n'auraient pas été aussi protégés, et peut-être qu'on n'aurait pas escorté le... Voilà, donc j'ai un peu cette impression-là, qu'on ait une tolérance un peu plus grande pour la religion catholique, pour les religions chrétiennes. Ouais.
Ma dernière rencontre, c'est Jean-Claude. C'est quoi son truc à lui dans la vie ?
Je suis en retraite, mais bientôt je vais travailler aux 8 à faire l'emballage pour Noël. Parce qu'il ne trouve pas assez de personnes.
Et du coup, c'est Jean-Claude qui s'y colle. Je lui parle de notre sujet du jour, il souffle. Sujet compliqué.
Il y a beaucoup de Français qui réagissent parce que le port du voile, tout ça, ça heurte les gens. La viande halal, tout ça, donc c'est des sujets de discorde. Donc le Français a l'impression de ne plus être chez lui, en fait.
Est-ce que c'est votre cas, Jean-Claude ?
Non. Avant, elle était omniprésente, la religion catholique. Donc aujourd'hui, on voit bien que la religion catholique disparaît petit à petit. Les églises ferment, sont vendues pour faire des bars ou des choses comme
elles
ça.
Elles sont désacralisées, c'est vrai.
Ouais, à Rouen, par exemple, ils sont en train de vendre une troisième église. Pour faire un bar.
Entre ceux qui y voient un repère, ceux qui n'y voient plus qu'un décor, on voit bien que nos racines chrétiennes continuent de traverser nos débats. En tout cas, les églises se vident, on les désacralise, on les transforme, finalement, parfois pour communier. Il va suffire simplement de lever son verre, Mathieu, et dire « Santé ».
Amen, mon cher Quentin. Christine Pedotti, c'est vrai ce que nous raconte Jean-Claude, beaucoup d'églises en France sont désacralisées pour être transformées parfois en habitation, parfois même en bar. Il y a une désaffection des lieux de culte en France ou...
Non, en fait, très peu.
Très peu dans les statistiques,
très peu. Alors en fait, ce qui arrive, c'est que les églises qui ont été bâties après 1905, elles ont deux problèmes. Le premier, c'est qu'elles ne sont pas la propriété des communes, donc c'est l'église qui doit les entretenir, et ça coûte un
pognon de dingue, vous
pouvez
le dire.
Un pognon de dingue, c'est ça. Voilà, vous le prenez de la bouche. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elles ont souvent été construites de façon beaucoup moins pérenne que les églises anciennes, et que la restauration, l'entretien, est presque impossible. Alors, le paradoxe, c'est que ce sont les églises d'après 1905 qui sont désacralisées. Et ça, c'est plus facile à faire, parce qu'il suffit que ce soit l'évêque qui viennent et qui disent « bon, ben ça y est, on fait quelques prières et l'église est désacralisée ». En revanche, si c'est une église qui appartient à l'État, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut que le préfet soit d'accord, que le maire soit d'accord. Et vous savez, en fait, dans la réalité, les gens dans les villages, ils ne veulent pas que leur église cesse d'être une église. Et donc, en fait, ils se battent pour continuer à la faire vivre, parce qu'une partie de l'identité du village, elle est autour de cette église.
Donc, il y a le cimetière souvent autour.
Moi, si vous voulez mon avis, je pense qu'on devrait les ouvrir plus largement. Je pense que les églises sont à nous tous, pas seulement aux quelques catholiques qui... Je me revendique comme catholique, ne vous y trompez pas. Mais il me semble que les églises, on serait bienvenus de les ouvrir bien plus largement pour qu'elles soient des lieux de communion. Vous savez que la première chose qu'on fait dans une église...
On prie.
Mais non, on mange.
On mange. Enfin, l'hostie, c'est pas très bon.
C'est quand même...
C'est pas très nourrissant.
On s'y réunit pour... En fait, même si c'est un repas qui est symbolique... Eh ben, je pense que ça serait bien qu'on continue à avoir des repas fraternels dans les églises.
Vendry dit dans le micro-trottoir, on ne traite pas les religions de la même manière, il y a une tolérance plus grande pour la religion catholique. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, parce que sans doute, je l'observe, parce qu'en fait, elle appartient davantage à notre histoire longue, et que, on n'a pas cette histoire longue avec l'islam. On l'a avec le judaïsme. Le judaïsme, il est plus ancien en France encore que le christianisme. Il est arrivé avant. pas très longtemps avant, mais un peu avant. Donc en fait, c'est aussi cette différence-là. Ça veut dire que parfois, on ne comprend pas très bien les symboliques d'une religion. On ne sait pas pourquoi. Il y en a qui mangent halal, qui mangent...
Mais c'est l'incompréhension, la méconnaissance.
Oui, il y a beaucoup d'incompréhension, parce que en fait, quand les gens se mettent à vivre les uns à côté des autres, et qui partagent des repas, moi je suis très pour les repas partagés.
J'ai l'impression, hein, Christine, ouais. C'est très bon repas.
Ouais, très bon bouffe. Très bien. Je suis catholique hédoniste.
Attends, j'adore.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et si Quentin était en fait prédestiné à souffrir pendant le Zoom Zoom Test ? Et si tout remontait au martyr de Saint-Quentin ? Ce fils de sénateur romain qui, au 3e siècle de notre ère, partit évangéliser la Gaule, en gros, comme un micro-trottoir mais sans micro, arrivé à Beauvais, il se fait arrêter et torturer, mais refuse de renoncer à sa foi, un peu comme Quentin quand il refuse de dire qu'il a triché au quiz en regardant ma feuille. Un peu plus tard à Reims, il sera arrêté, de nouveau torturé et finalement décapité, les restes de son corps jetés aux poissons des marais, ce qui pourrait expliquer que Quentin ne mange jamais de poissons, mais seulement des merguez. Bref, un véritable martyr dont on célèbre la mémoire chaque 31 octobre, mais ça bien sûr vous ne le saviez pas, trop occupé que vous êtes à fêter Halloween, bande de capitalistes dégénérés. Ce quiz sur nos grandes saintes et saints va vous remettre d'équerre. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte de celles et ceux qui ont tout sacrifié au Seigneur, comme par exemple Catherine de Sienne, dont la trajectoire est presque l'exact inverse de celle de Manon, puisqu'à l'âge de 6 ans, elle fait vœu de chasteté et se jure de devenir l'épouse du Christ. Elle deviendra par la suite ascète avec un régime strict à base d'hostie et, se dédiant tout entière à aider les malheureux, elle poussera le dévouement jusqu'à s'auto-crucifier pour implorer Dieu de stopper la peste noire, combler sa carence en protéines animales en aspirant le pus des plaies d'une malade,
ça vous fait rire,
ou
ça.
Mourir elle aussi à 33 ans. Comme
oh, c'est A et C.
C'est dommage, Quentin.
Ah, c'est dommage. Ah, seulement. Elle s'est crucifiée.
Non, elle ne s'est pas auto-crucifiée. Parce que, techniquement, vous avez m'expliqué comment on s'auto-crucifie.
Bah oui, on va pas se mettre des
clous. On en fait avec la moitié, quoi.
Non, franchement, je pense que ce n'est pas possible. C'était les réponses B et C. Catherine de Sienne était un peu la sœur sourire du XIVe siècle. Pour elle, tout est bon dans le miséreux, même le pire. Délicieuse, cette fistule, monsieur Jacouille. Un dévouement admirable et jusqu'au boutiste qui lui vaudra d'être canonisé en 1461. Vous avez aimé Catherine de Sienne, à mon avis, vous allez adorer Catherine de Gênes. Elle voit le jour en 1447 et ça démarre pas du tout comme Catoche de Sienne puisqu'elle ne fait pas du tout vœu de chasteté. Après avoir été mariée à 16 ans, elle s'enfuit pour s'adonner pendant 5 ans à ce qu'elle appellera pudiquement les plaisirs de l'existence. Mais voilà un jour, comme Manon, quand elle a commencé à avoir des courbatures à force d'utiliser son œuf magique, elle se lasse de cette vie de débauche. Prise de remords, Catherine de Gênes se confesse, s'inflige un jeûne total et va même ne plus
un
vivre
jeûne.
Un jeûne. Ouais. Un jeûne.
Un jeûne.
Là, ne plus vivre.
Oui, parce que effectivement, si elle s'infligeait un jeûne, ça serait moins
drôle. Autre chose.
Et ne plus vivre que d'eau bénite et d'hostie pendant les 37 dernières années de sa vie.
C'est A, ça ?
Oui. Guérir miraculeusement un malade atteint d'une fièvre mortelle en se plongeant elle-même dans de l'eau bouillante, ou devenir immunisé contre la peste à force de faire des câlins aux mourants et de leur nettoyer les croûtes.
C'est.
Moi, j'aurais dit C, je vais dire A, du coup.
Vous n'arrivez même pas à vous projeter dans cette idée de don.
Non, ça va, je converse.
Bonne réponse de Quentin, plus généreux d'entre nous.
Allez faire des câlins de personnes pour la peste.
Être immunisé contre la peste bubonique au 15e siècle, c'est une sacrée chance, même si la chance n'a rien à voir avec ça, puisque la Catoche a donc gagné cette immunité en nettoyant les croûtes des malades. Voyez, Quentin, continuez de me changer mes pansements, vous gagnerez peut-être ainsi votre paradis. Mais attention.
Il y a des croûtes en plus, on peut le dire.
Oui, il y en a, oui.
Pas très beau.
Direction maintenant l'Égypte du 4e siècle, à la rencontre de Macaire de Cété, un moine chrétien qui vivait en ermite dans le désert de Cété, d'où son nom. Un jour, un moustique le pique. Au lieu de s'en accommoder, après tout, le moustique est une créature de Dieu, il défonce le dit moustique avec sa tatane. Pris de remords compréhensibles, que va alors faire notre moine pour expier cet acte impardonnable qui n'est pas sans rappeler la fois où Quentin avait écrasé un piaf sous ses paraboots. Macaire de Cété va partir à poil dans les marais pour permettre au peuple moustique de le défoncer en retour. Il s'est enduit de boue et il est resté immobile pendant 7 jours pour laisser l'opportunité à la nature de se venger.
Ah.
Où il s'est astreint à marcher pieds nus sur le sable brûlant pendant plusieurs jours en récitant des psaumes.
Ah, C.
B.
C'est dommage parce que vous avez donné la bonne réponse dans votre première question.
C'était
ah oui, vous avez dit ah, oh, bonne réponse.
Non, ça rentre pas.
Elle a dit ah d'abord comme ça. À poil dans le marais et advienne que pourra. Oui. Une phrase qu'a également prononcée notre rédacteur en chef adjoint Pierre Courat, mais dans d'autres circonstances. Oh. Attention, on quitte le désert égyptien pour la pittoresque ville de Schiedam en Hollande en 1380. Vous connaissez forcément Lidwin puisque c'est la sainte patronne des patineurs à glace et ça c'est vrai. Lidwin avait deux passions, Dieu et le patin. Mais voilà, après une mauvaise réception sur un triple axel, elle se fait les croisés et demeure allongée pendant 38 ans, dont 20 à bouffer des hosties et à se nécroser gentiment pour devenir à sa manière une des pionnières du upcycling. Car ses parents récupéraient et conservaient les morceaux de peau tombés de ses plaies pour parfumer la maison. Il récoltait ses larmes pour en faire de l'eau bénite premium, ou son urine était distillée pour produire une étonnante liqueur de vie.
B, les larmes. Non, mais ça va pas être l'urine.
Je veux dire A. Les trois.
La plus belle, c'était la C, mais la bonne réponse, c'était la A, malheureusement. L'ancêtre du wizard, c'était Lidwin.
Il a mis du temps à venir, Nana.
Enfin, vous savez, Nana n'est plus aussi réactive qu'avant. Persuadée que les bouts de peau de leur fille, qui était quand même en train de canner, étaient miraculeux et sentaient très bon, ses parents les conservaient dans des bocaux afin de pimper l'ambiance olfactive de la maisonnée. Pour finir sur une note de fraîcheur, que faisait selon vous Angèle de Foligno ? Je vous en ai parlé tout à l'heure, la sainte italienne, pour se rapprocher de Dieu. Elle buvait l'eau du bain dans lequel elle lavait les lépreux. Elle dormait dans une fosse à fumier pour partager la condition des plus pauvres, ou elle se cousait les paupières pour ne pas souiller le monde de son regard.
Oh là là, c'est dur, hein.
C'est horrible, les trois. B, je dirais.
A.
Elle buvait l'eau des lépreux ?
Ouais.
Oh, Quentin. Vous êtes le plus vieux d'entre nous. Bonne réponse.
Les shots, ouais.
Jamais Angèle de Foligno ne serait cousue les paupières, car c'était une sainte qui n'avait pas froid aux yeux. Elle buvait carrément l'eau du bain où elle lavait les lépreux. Oh. Elle nous a même laissé dans ses mémoires cette belle citation : je n'ai jamais trouvé meilleur goût à aucune liqueur, et cependant j'avais bien senti dans ma bouche les écailles qui étaient tombées des mains de ce pauvre. Victoire de la sainteté et victoire de Quentin.
Il n'y a pas une influenceuse qui vend l'eau de son bain.
Amen. Allez.
Il n'y a pas une influenceuse qui vend l'eau de son bain.
Vous parlez de saints et de saintes reconnus par l'Église catholique. Vous parlez d'influenceuse.
Il y a eu Sydney Sweeney qui vend. C'est quoi, du savon déjà?
Les gens continuent d'applaudir Quentin.
Oui, merci à tous. Oui, merci à tous.
Christine Pedotti, directrice de la revue Témoignage Chrétien, est toujours avec nous pour comprendre d'où vient ce qu'on appelle les racines chrétiennes de la France et ce qui se cache aussi derrière cette expression. Christine en parlait des relations entre l'État et le catholicisme. L'Église elle-même, c'est aussi un État, il faut le rappeler, c'est le Vatican. Le pape est à la fois le chef de l'Église et chef d'État. Quand Jean-Paul II demande à l'époque: France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'ingérence? Aujourd'hui, ça serait encore possible, ça?
En tous les cas, je ne suis pas sûre que le précédent pape François ou le pape d'aujourd'hui ferait ce genre de choses. C'était le genre de Jean-Paul II. Hein, il y avait un côté très... Voilà, il était très acteur, il avait le don des formules. Je veux dire, il avait le goût de la puissance, hein, pour le catholicisme. C'est un pape qui a essayé de restaurer une forme de puissance du catholicisme.
En tant que catholique, Christine, vous trouvez que le catholicisme manque de puissance actuellement et qu'il la joue au petit bras ? Il aurait plus de choses à dire dans notre monde.
Alors moi, je pense honnêtement que le christianisme a quelque chose à dire, qu'il participe à la conversation du monde. Ça me semble être plutôt une bonne chose, parce que moi, si je suis chrétienne, c'est pas pour boire l'eau des lépreux, hein, du bain des lépreux. C'est parce que je pense que effectivement, il y a dans la une fraternité universelle. Si on est tous les enfants de Dieu, on est tous frères, y compris les moches, les méchants, les criminels. C'est ça aussi que dit le christianisme, hein, c'est pas rien. Moi, ça m'intéresse.
Est-ce qu'il y a, Christine,
en revanche, la puissance, qu'est-ce que ça veut dire, la puissance ? Je veux dire... Voilà.
Plus syndiqué, plus...
Le Vatican n'a pas de...
Donner donner son avis sur la politique d'un pays, d'un État souverain, par exemple.
C'est vrai que Jean-Paul II, son genre, si j'ose dire, ça a été une forme d'ingérence. Hein. Il a assumé ça. C'était un immense homme politique.
Oui, c'est ça.
Voilà, il faut dire que c'était un immense homme politique.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un renouveau du catholicisme en France ? Le nombre de pratiquants réguliers est en augmentation d'après les chiffres publiés hier dans La Croix. Il y a 3 fois plus d'adultes baptisés cette année qu'il y a 4 ans, par exemple, c'est pas rien. On a vu aussi le succès du documentaire Sacré-Cœur au cinéma. Qu'est-ce que ça dit, tout ça ?
Ça dit peut-être que, là je suis très sérieuse, qu'on a une âme, il faut peut-être mieux s'en occuper. On n'est pas seulement des grands estomacs. On a besoin de vivre avec quelque chose... En plus, et on en a finalement tous un peu conscience. Alors, on peut essayer de se distraire pour ne pas le savoir, mais voilà, je pense que ce renouveau de religieux... Alors, par exemple, sur les baptêmes, il y a une chose évidente, hein, c'est quand on arrête de baptiser les enfants, forcément, on peut baptiser plus d'adultes.
Forcément.
C'est un peu mathématique.
Christine, le hors-série de Témoignages chrétiens de cet été était intitulé « Que vote Jésus ?» Si on comprend bien son message dans les évangiles, il est plutôt de gauche, non ?
Disons que, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens ont l'air de croire, Jésus a bien plus souvent parlé d'argent et fustigé les riches que parlé de sexe.
Donc,
a priori, les riches sont assez maltraités dans les évangiles, hein. Ouais. C'est pas voilà, il y a pas beaucoup de bienveillance. d'après Jésus, ça les rendrait plutôt très égoïstes et malveillants.
Donc il est de gauche.
La conclusion. On parlait de l'utilisation de cette expression racine chrétienne de la France, oui. Notamment sur les plateaux télé. Vous pensez qu'il y a une forme aussi d'affichage identitaire pour certains qui jouent sur cette corde-là pour des raisons
bassement
politiques ?
Oui, c'est évident qu'aujourd'hui, la question d'identité, elle est puissante partout. Hein. Il n'y a pas qu'en France. Et donc, en fait, on cherche des signes, des symboliques identitaires, des choses auxquelles se raccrocher, parce que on est pris par de grandes angoisses devant le monde tel qu'il va mal, hein, y a de quoi quand même. Se raccrocher à des identités fortes, anciennes, à quelque chose qui vient du passé, ça aide peut-être.
C'est rassurant.
Alors, est-ce que ça aide à affronter l'avenir ? Bonne question.
Ah, justement, l'avenir lui-même nous le dira. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une émission aujourd'hui, on la connaît tous, on est peut-être déjà tombé dessus un dimanche matin en gueule de bois, en tout cas c'est mon cas. Je vais vous parler du jour du Seigneur. Très beau générique.
Ça vous va bien, Manon.
Le jour du Seigneur est le plus vieux programme de la télévision française. Il a été lancé en 1949 sur la RDF, Radio Diffusion Télévision Française, l'ancêtre de France Télévisions. L'objectif de l'émission à sa création était de permettre aux personnes âgées, isolées, malades ou en zone rurale d'assister à la messe depuis chez elles. L'idée est venue du père Raymond Pichard, dominicain, journaliste considéré aujourd'hui comme un pionnier de l'audiovisuel religieux. À l'époque, la télévision n'est presque nulle part. Il y a moins de 1000 postes dans le pays fin 1949. Le nom complet au lancement de l'émission est « Le jour du Seigneur catholique » avant d'être raccourci dans les années 60. L'émission est une vraie prouesse technique. Depuis 1949, les équipes filment chaque semaine dans une église différente avec un carré-gis, des dizaines de techniciens et une réalisation en direct. France Télévisions rappelle que c'est l'une des opérations les plus lourdes du service public, parfois installée dans des cathédrales gigantesques, parfois dans de très petites paroisses. Mais l'émission n'est pas qu'une messe. Dès les années 50, elle propose aussi des reportages pour montrer la vie catholique dans la société française. Aujourd'hui encore, elle aborde la baisse de la pratique, la transformation des paroisses, l'engagement associatif. Le jour du Seigneur est devenu une sorte de documentaire hebdomadaire sur l'héritage catholique français qui perdure dans le temps. C'est quand même un paradoxe. Dans un pays marqué par la loi de 1905, la télévision publique diffuse toujours une messe dominicale. Et malgré l'image poussiéreuse qu'on lui prête parfois, l'émission est loin d'être anecdotique. En 2023, elle rassemblait encore entre 500 000 et 900 000 téléspectateurs chaque dimanche. Dans un paysage audiovisuel saturé de formats courts, cette émission continue d'exister tranquillement, en plan fixe, avec un orgue, une homélie et le patrimoine chrétien en toile de fond.
Merci Manon. Christine Pedotti, le fait qu'une émission religieuse soit diffusée comme ça toutes les semaines sur le service public, ça peut paraître bizarre dans un pays où on met tout le temps en avant la laïcité.
Oui, alors de fait, il n'y a pas que le jour du Seigneur, le dimanche matin.
Et vous avez raison, plusieurs religions sont mises en valeur.
Voilà, les religions sont mises en valeur. Hein. On commence, je crois que c'est l'islam qui commence, puis le judaïsme, très 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 regardé, puis les protestants, puis les catholiques. Et globalement, tout ce monde-là s'entend très bien.
C'est l'œcuménisme. J'ai l'impression que c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup, ça, malheureusement.
Oui, tout à fait. Et c'est même interreligieux. Et il y a même des matins, quand il y a une grande fête dans une des religions, ils se prêtent des créneaux horaires les uns aux autres. Donc tout ça montre plutôt une bonne entente entre tout le monde.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il aura fallu attendre presque 2 saisons et 350 émissions pour qu'enfin Pierre Courade se sente à sa place autour de cette table. Chaque matin, avant de rejoindre l'antre progressiste qui est Radio France, il s'aspergeait d'eau bénite et relisait quelques versets de la Sainte Bible qui lui donnaient la force d'affronter l'absurdité de nos thématiques. Le polyamour, la transmisogynie dans le sport ou encore le rapport des filles au porno. Oui, parfois il a dû s'auto-flageller pour expier ses péchés, mais voilà, tout rentre enfin dans l'ordre. Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur les racines chrétiennes de la France en une minute chrono.
J'ai dû me faire violence et je sais, vous aussi Christine, d'où votre retard. Aujourd'hui, on célèbre le 120e anniversaire de l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État, une étape historique dans la longue relation qui unit le christianisme et le pouvoir en France. On en a donc parlé avec la journaliste spécialiste du catholicisme, Christine Pedotti. Avec elle, on est revenu sur les racines chrétiennes de la France, une réalité sur l'histoire longue. La France a longtemps été chrétienne, mais en y faisant référence aujourd'hui dans un but politique, on reconnaît implicitement que cet état de fait n'est plus la réalité du moment. L'expression elle-même de racines chrétiennes est entrée dans le débat politique que dans les années 80. Mais quelle que soit l'instrumentalisation de ce terme, le christianisme reste prégnant en France, dans ses paysages, dans son patrimoine, mais aussi dans sa culture. Notre invité rappelle que la fraternité, la justice, l'universalité sont des valeurs chrétiennes. Au fond, la religion a infusé au cours des siècles son pouvoir a grandi au point d'acquérir une certaine autonomie vis-à-vis de Rome. Christine Pedotti nous a expliqué que l'Église de France était une puissance de même poids que la République en 1905 jusqu'à ce qu'elle soit séparée du pouvoir laïque. La France elle-même s'est progressivement sécularisée, ce que regrettent certaines forces politiques, les mêmes qui convoquent aujourd'hui les racines chrétiennes sans toujours comprendre le message des évangiles.
Merci mon cher Pierre, jamais vous n'aviez pris autant de plaisir à résumer notre émission. Et c'est maintenant un événement France Inter autour de J'essaie d'être animé par l'Esprit Saint. Alors,
voilà, mais oui, mais bonjour à tous. Oui. Enfin, amen. Oui, avant de parler de... Oui, je le fais bien. Avant de parler de ce thème à racines chrétiennes, je tenais à vous dire que si nous sommes réunis en ce jour, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est pour aborder un grand thème et une grande nouvelle. Cette semaine, je passe mon permis.
Wow.
Oui. Non, calmez-vous pour la quatrième fois en deux mois. Voilà, je le prends maintenant comme une épreuve que Dieu m'envoie pour tester ma patience et mes angles morts. Et en vrai, j'aime trop ma monitrice, elle écoute toutes mes chroniques. Oui, je la force à mettre le podcast dans la voiture. Oui, je lui dis, Marie-Christine, tu montes le son, sinon je te coupe mes droits CPF. En plus, elle est dans le thème d'aujourd'hui parce qu'elle est très croyante et pratiquante, premier degré. Comment je le sais? Elle fait un signe de croix à chaque fois que je prends un rond-point. Non, franchement, elle abuse. Oui, ok, la dernière fois, je suis monté sur un trottoir, mais ils sont chiants de les coller à la route aussi. Ah, après, pareil, avec les voies réservées, elle est là. J'essaie, t'es sur une voie de bus. Marie-Christine, qu'est-ce qui vous dit que je suis une voiture, en fait? Voilà, peut-être je m'identifie à un bus. Voilà, merci. À chaque fois, elle répète, Seigneur, je suis là, Marie-Christine, laissez-le en dehors de tout ça. Lui-même a des voix impénétrables. Oh. Et après, je me dis, mais il n'y a pas de vanne de cul.
Non, il n'y a pas de vanne de cul, c'est là que.
Et après, je me dis que j'ai quand même jamais encore écrasé personne. Et c'est vrai que ça tient du miracle. Voilà, je laisserai la cour à faire la demande. Hein, c'est notre Bernadette Soubirouf.
Soubirouf, voilà.
Fallait qu'elle meure, c'est dingue.
Ah, ouais, c'est la fin.
Mais évidemment, à quel sait les noms des saints, cette ravie de la crèche. Putain, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que devant le Seigneur qu'elle s'accroît.
Oh.
En tout cas, après, si je dois être honnête, je pense pas que ce soit Dieu qui me protège, évidemment, hein, étant donné que ma vie n'est qu'une succession de chroniques qui mèneront en enfer. Hein, et c'est quand même dommage parce que je m'appelle Jessé Raymond Lacroix. Ah, si ça, c'est pas un nom de cubéni, peut-être. Bon, je précise que Raymond, c'est pas mon prénom, hein, c'est mon nom de famille. Non, parce que je les entends, hein, toutes les Véronique à Mars en carton qui sont là. Ils s'appellent pas Jessé, en fait, ils s'appellent Raymond, la honte, hein, qui aurait choisi Jessé comme pseudo pour plus baiser. N'importe quoi. D'ailleurs, voilà, vous savez d'où ça vient, mon prénom, Jessé? Hein? Non, bah non, j'imagine que... Non, bande de païens hérétiques. Oui, c'est quoi? Vas-y.
C'est de la Bible.
Oui, ça veut dire quoi?
Je ne sais pas.
Voilà, donc tu te tais la prochaine fois. C'est dingue, ça représente l'arbre généalogique du Christ, l'arbre de Jessé. Oui, voilà, maintenant je vous le dis, Jésus c'est mon grand-père en fait. Voilà. Oui, Manon, t'inquiète, je vais transformer ton eau en vin. Deux secondes. Bon, après, je viens d'une famille catho, mais je ne suis pas baptisé. Hein, mes parents ont tout de suite su que ce serait de l'eau bénite gâchée. Voilà. Ou alors ils ont essayé, puis au contact de ma peau, ça fait pshhh. Et le prêtre était là, va des rétro, antichristus. And here I am, cute little demon. Moi, ma grand-mère est catholique, pratiquante. Elle allait à la messe tous les dimanches avec ses 8 enfants. Résultat, aujourd'hui, aucun des 8 croit en Dieu. Aucun. Que des mécréants. Pire, le petit dernier, mon père, communiste marxiste.
Ah,
ah oui, mais oui, du coup, quand j'ai dit à ma grand-mère que j'étais gay, elle a fait « Eh là donc !» Du moment que tu votes pas comme ton père. Aucune chance, mamie, j'aime trop l'argent. Elle s'en fiche complètement que je sois homo. Elle répète, oh, tu sais, Dieu aime tout le monde. Je sais, mamie, et moi que les PDG. Elle rigole. Eh, ils peuvent être ouverts et drôles, hein, les cathos, quand ils sont dans l'amour. Ce qui, je crois, est la valeur principale de cette religion. Aime-toi comme tu aimeras ton prochain. Une doctrine qui a dû se perdre dans certaines manifestations où on n'aurait jamais vu ma grand-mère.
Oh, c'est beau, j'essaie toujours une petite touche émouvante à la fin de la chronique pour rattraper toutes les horreurs. Merci Jessé, on se retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et vous serez à partir du 3 juin au Théâtre des Mathurins à Paris et aussi en tournée dès le mois prochain à Château-Thierry, Strasbourg, Auchel dans le Nord ou encore Marom à côté du Rouen. Il y a plein d'autres villes, hein. Toutes les infos sont sur icijessé.com. Merci beaucoup Christine Pedotti de nous avoir éclairé sur ces fameuses racines chrétiennes de la France. Je rappelle que vous êtes la directrice de la revue Témoignages Chrétiens qui a donc établi le profil politique de Jésus qui était donc de gauche, on peut quand même le dire, sur France Inter cet après-midi. Voilà. Et vous êtes la confondatrice de l'association Magdala qui pourra peut-être un jour, qui sait, venir en aide à Manon.
J'aimerais.
Enfin, il y aura du boulot quand même.
Du taf. Zoom Zoom Zen.